Lundi, catastrophe. Catastrophe au sens de film catastrophe dans lesquels, vous savez, la fin du monde est toujours signifiée par la chute de monuments iconiques. Par exemple, la statue du Christ rédempteur qui surplombe Rio de Janeiro au Brésil. Pour vérifier, quelle que soit la façon dont l'apocalypse advient, par le feu, par la guerre, par les eaux, il y a toujours ces images d'effondrement du Christ du Corcovado. Mais que nous dit-il, ce Christ rédempteur de 30 mètres de haut et presque autant entre ses deux mains, ses bras grands ouverts? Il dit l'association d'abord entre ingénieurs et sculpteurs brésiliens, roumains, français qui ont permis ensemble l'édification en 1931 d'une œuvre monumentale. Il dit une conception de la religion aussi qui est celle de l'accueil et de l'amour d'autrui aux antipodes de ces évangélismes traditionnalistes qui excluent et qui replient. Il dit cette ouverture au monde qui est au fondement de la foi catholique, celle-là même auquel 60% de la population brésilienne se déclare fidèle. Il dit le rassemblement, la protection, la grandeur. Il dit la passion du Christ en croix aussi, celui qui paye pour la folie des hommes, celui qui permet la rémission des péchés. Et ce matin, au lendemain d'une élection, il semblerait qu'il se soit effondré, le Christ du Corcovado. Une élection qui, pour la symbolique de ce monument, a de faux airs de trahison.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui interroge dans ses romans la religion, l'art sacré et la façon dont les croyances se font et se défont. Son fameux Da Vinci Code en a fait non seulement un trouble-fête du Vatican, mais l'un des plus grands auteurs de best-sellers au monde. Son dernier roman, Origine, publié chez Lattès l'année dernière et dans une traduction de Dominique Defer et Carole Delporte, s'apprête à sortir au livre de poche. Il nous raconte un duel sans merci entre la science et la foi à l'aube d'une nouvelle ère pour l'humanité. Bonjour Dan Brown.
Bonjour, thank you for having me.
Merci beaucoup d'être là. Comment est expliqué en ce moment, partout dans le monde, la montée d'un certain conservatisme religieux?
C'est vrai qu'il y a une montée du conservatisme religieux, mais en même temps, en équilibre, il y a une montée de l'athéisme et de l'agnosticisme. Donc on assiste à un clivage de la société, les riches, les pauvres, les croyants, les non-croyants. Et ça, c'est une grosse préoccupation, à mon avis. En effet, il n'y a plus de modérés.
Mais diriez-vous que le besoin de croire aujourd'hui a quelque chose à voir avec la montée de la science, de nouvelles technologies, de plus en plus puissantes aujourd'hui?
Sans l'ombre d'un doute, la science et la technologie jouent un rôle très important dans notre philosophie et notre croyance religieuse. Ainsi, il est plus difficile de vendre, entre guillemets, la religion. Je m'explique. Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans une famille chrétienne, ma mère était l'organiste de l'église, moi j'étais enfant de chœur, tout le toutime. Bref, lorsque ma mère, le prêtre et tous les adultes de la paroisse m'ont dit « Tu sais, Dan, on descend d'Adam et Ève. » J'ai dit « Ah bon, d'accord, très bien. Si c'est ça, bon, très bien. » Aujourd'hui, si vous dites à votre enfant, on descend d'Adam et Ève, et bien l'enfant va vous dire, un instant, il va regarder sur Google, et revient vous voir 15 secondes plus tard, et il vous dit, tu sais, ton histoire, c'est sympa, mais 94,3% des gens pensent que ce n'est pas vrai. Et puis, il y a un phénomène qui s'appelle l'évolution, et là, c'est une autre histoire. De quoi tu parles? Donc, la technologie nous donne un accès instantané à des points de vue différents. Et les gens qui ne sont pas éduqués peuvent s'éduquer très rapidement grâce à la technologie. Et ça, évidemment, ça a un retentissement sur la capacité qu'ont les religions de revendiquer leur vérité.
Alors, c'est passionnant parce que quand on lit vos romans, Dan Brown, on se rend compte que la religion devient dangereuse dès lors qu'elle empêche de se poser des questions. Alors, je me pose la question, quand est-ce que vous avez commencé à vous en poser des questions, ces questions-là?
Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une famille où on était croyants. Moi, j'ai donc cru à Adam et Ève. Et un jour, à l'âge de 11 ans, je me retrouve dans une sortie scolaire et on va au Musée des sciences de Boston. Et là, on nous parle d'évolution. Et je suis allé voir le prêtre et je lui ai dit, « Mon père, laquelle des deux histoires est la bonne ?» Et malheureusement, cet homme-là m'a dit, « Eh bien, les gentils garçons ne posent pas cette question-là. » Donc moi, ça m'a troublé et j'étais en colère parce que j'avais grandi dans une famille où on pouvait poser poser des questions. Et c'est à ce moment-là que je me suis éloigné de la religion. Mon père était prof de maths, j'ai beaucoup étudié les maths, la physique, l'astronomie, et à l'université, j'ai continué à étudier les sciences, et je me suis aperçu, d'ailleurs en écrivant Anges et démons, c'est que plus on approfondit sa connaissance scientifique, plus on se rend compte que c'est religieux. Les chiffres deviennent magiques, imaginaires, il y a des théories plus que des faits, il y a suffisamment de place pour faire des erreurs, et on se rend compte que les grandes questions scientifiques sont spirituelles. Et donc moi, je pense que la science et la religion, ce sont deux langages différents qui essayent de raconter la même histoire.
C'est vrai que vous n'êtes jamais devenu anti-religieux. Pour autant, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez failli basculer dans une pensée c'est plus radical?
Anti-religieux, non, je ne le suis pas. Et le danger de la religion, c'est ce que vous dites, la pensée radicale. Moi, je crois que l'athéisme radical, c'est aussi dangereux que la religion radicale. Parce qu'on ne peut pas parler à des athéistes radicaux. Et quand vous posez une question, ils vous disent non. Quand vous parlez à quelqu'un de croyant et qui est radical, là, les gens vous disent, oh, ben, c'est Dieu qui a dit ou qui a fait. Bref, encore une fois, il s'agit de créer un dialogue. C'est ce que je fais dans mes livres. Moi, j'essaye de ne pas prendre parti. Moi, je pose des questions. Est-ce que vous avez pensé à ci, à ça? Et je crée des personnages qui peuvent argumenter des deux côtés.
Et on l'entend, vous êtes quelqu'un, Dan Brown, de très pondéré, de très pragmatique. Pour autant, est-ce que la colère est une émotion qui vous est familière? Qu'est-ce qui vous met en colère, tiens?
Intolérance. L'intolérance. Moi, j'ai passé mon enfance et mon adolescence sur le campus d'une école assez huppée avec des enfants qui venaient de partout, des gens de toutes les couleurs de peau et de toutes origines. Mon père était prof et il y avait dans cette école des messes pour les chrétiens, pour des services pour les juifs et autres. Il y avait même des cours de méditation transcendantale et des débats entre les agnostiques. Donc avant d'aller à l'université, moi je ne connaissais pas l'existence de l'intolérance. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas d'autres gens sous prétexte qu'ils ont une couleur de peau différente ou parce que leur Dieu est différent. Alors, qu'est-ce qui me met en colère? Voilà la réponse. C'est ça, cette intolérance.
Une collaboration harmonieuse entre la spiritualité religieuse et l'exigence scientifique, c'est en quelque sorte le thème de votre dernier roman, Origine. Dan Brown, où un éminent spécialiste des nouvelles technologies, est assassiné alors qu'il s'apprêtait à partager avec le monde entier une découverte qui s'apprête à jamais l'existence de toutes les religions. Pourquoi est-ce que la science, pour certains groupes religieux, peut-elle être considérée comme un danger?
L'homme n'a jamais créé de technologie qu'il n'ait pas transformée en arme. Lorsqu'on a su maîtriser le feu pour faire la nourriture ou chauffer les cavernes, on s'est dit, eh bien, dites-donc, on peut également brûler des villages avec ça. Même chose pour le nucléaire. Voilà une source d'énergie incroyable, eh bien, il se trouve que ça peut être une arme aussi. Donc, il serait naïf de penser que les technologies de l'avenir, prenons l'intelligence artificielle, ne seront pas utilisées pour s'entretuer. Donc, dans mon esprit, le gros problème de la science radicale, c'est que notre connaissance scientifique connaît une croissance exponentielle, mais nos philosophies, elles, restent linéaires. Par conséquent, nous créons des outils pour lesquels nous n'avons pas encore la moralité quant à leur utilisation. Et au quotidien, nous sommes confrontés à des questions toutes nouvelles, des questions éthiques.
Alors, vous me tendez une perche, évidemment. Dans quelle mesure la littérature, Dan Brown, est-elle dangereuse? Dans quelle mesure est-ce qu'elle a le pouvoir d'inquiéter, d'ébranler, de saper nos certitudes?
On dit que la plume est plus forte que l'épée. En effet, si on l'utilise correctement, la plume peut convaincre. Et elle peut convaincre à bien des égards. Prenez la littérature la plus puissante jamais écrite. Dans la culture occidentale, on pourrait dire que c'est la Bible. Il y a plus d'art et de musique qui a été créé en honneur de la Bible qu'en honneur d'autres choses. Il y a plus de guerres qui ont eu lieu à cause de la Bible. Il y a plus de gens qui ont perdu la vie ou qui ont trouvé un sens à leur vie par rapport à la Bible que par rapport à autre chose. Donc c'est une œuvre ô combien marquante. Mais le défi par rapport à la Bible et par rapport en littérature d'une façon générale vient de notre incapacité à comprendre. Prenons la Bible. Quand on ne comprend pas que les histoires de la Bible ne sont que des fables qui nous permettent d'apprendre des choses sur la vie. Mais le danger vient du fait qu'on peut penser que ce sont des faits réels. Mais non, là, c'est de la moralité. Mais la Bible, c'est une métaphore qui vous permet de comprendre la vie. Et si on prend cette littérature, cette fiction au pied de la lettre, et si on dit, non, non, ça c'est la parole de Dieu, ça s'est passé exactement comme ça. Et d'ailleurs, la Terre n'a que 6000 ans d'âge. Eh ben, c'est là que c'est dangereux.
Vous avez été confronté, vous, à des lecteurs qui prenaient vos livres trop littéralement, justement ?
Certainly. Ah bah oui.
Yes.
Sans l'ombre d'un doute. À la sortie du Da Vinci Code, il y a des gens qui ont dit « Vous avez ébranlé ma foi ». Et poliment, j'ai dit « Bah, je suis désolé, c'était pas mon intention ». Moi, vous savez, j'ai essayé de créer un dialogue. Et voici une histoire différente de Jésus. À mon avis, elle est plus logique que ce que j'ai lu dans la Bible. Et je suis désolé que votre foi ait été ébranlée. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. Si mon petit thriller a ébranlé votre foi, c'est que votre foi, elle n'est pas très costaude. Hein. Peut-être qu'il faut se pencher là-dessus aussi. Donc, ce qu'il y a de puissant dans la littérature, c'est que, quel qu'en soit l'auteur, c'est que la littérature peut vous montrer le monde par un prisme différent. Vous regardez le monde par les yeux de l'auteur. Et vous vous dites, moi, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et peut-être qu'on peut se dire, c'est très intéressant. Peut-être que moi, je vais adopter cette perception. Ou alors, c'est totalement grotesque.
Celle qui ferait bien de lire votre livre qui ne change absolument pas notre vision du monde, et c'est pas faute d'essayer, vous la connaissez sans doute, Dan, puisqu'elle fait parler d'elle dans le monde entier, c'est la culture. Et son actualité étroite d'esprit qui ne voit jamais plus loin que le bout de son nez, que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 29 octobre.
Je vais maintenant vous conter l'histoire d'un génial touche-à-tout, du seul homme qui a pu dire « C'est chose facile que d'être universel ».
Viva Da Vinci, 2019 marquera les 500 ans de la mort de Leonardo, qui s'est éteint au Clos Lucé à Amboise le 2 mai 1519. Toute l'année sera donc rythmée par les événements commémoratifs et les expos-événements autour du maître de la Renaissance. Aujourd'hui, c'est le musée des Offices à Florence qui lance les festivités en exposant le Codex Leicester, mythique ouvrage codé du génie qui réunit ses réflexions théoriques et scientifiques et qui est, depuis 1994, la propriété de Bill Gates. Magnifico! Des hurrahs pour Dua, vous ne la connaissez peut-être pas, mais ça devrait pas durer. La jeune chanteuse britannique d'origine kosovare, Dua Lipa, qui a sorti son premier album l'année dernière, vient de voir ce dernier devenir le disque le plus écouté sur Spotify pour une artiste féminine. Après s'être vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, l'album qui porte son nom a enregistré près de 4,22 milliards de clics. Elle cloue ainsi au poteau Ariana Grande, Zara Larsson et même Rihanna. You go girl!
Rien ne m'effraie plus que la fausse accalmie d'un visage qui dort. Ton rêve est une Égypte et toi, c'est la momie avec son masque d'or.
Et Mitterrand à la page, car c'est entre aujourd'hui et demain qu'est dispersée une partie de l'immense bibliothèque de l'ancien président François Mitterrand. Lors de la vente, près d'un millier d'ouvrages de littérature du XXe siècle vont être mis aux enchères pour une valeur estimée de 450 000 euros. Et on y découvre notamment le goût de l'homme de gauche pour les écrivains de droite, notamment Brasillach et Barrès, et des livres dédicacés par Jacques Chardon, Camus ou Duras. C'est classe. L'écrivain américain Dan Brown, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour Origine, un roman dont vous plantez le décor en Espagne, Dan, et vous évoquez un pan de son histoire, en l'occurrence la transition démocratique du franquisme à la République. Quand on décide de parler d'un pays qui n'est pas le sien, quelles questions est-ce qu'on se pose précisément, inévitablement, quelles précautions est-ce qu'on prend ?
Well, it's an excellent question. The precautions
are many. Excellente. Les précautions à prendre sont nombreuses. Il faut d'abord être très respectueux du fait qu'on est en périphérie. On n'est pas du tout de la même culture. Moi, j'ai travaillé avec des historiens en Espagne. Et une fois le manuscrit terminé, il y a plein d'Espagnols très cultivés qui l'ont lu et qui m'ont dit, non, ça va pas le faire parce que ce que vous voulez dire, c'est ceci. Et par ailleurs, ça va mettre en colère un certain groupe de personnes. Donc, lorsque je sens que je peux provoquer la colère, ça ne me gêne pas. Mais ce qui me préoccupe, c'est est-ce que c'est juste et est-ce que c'est exact? Et qu'est-ce qu'on va répondre à ceci pour que moi, je puisse créer une autre réponse? Donc, ça crée un dialogue, une conversation, plutôt qu'une espèce de prosélytisme ou une espèce de dispute.
Et c'est intéressant parce que c'est vrai que vos romans suscitent toujours un certain nombre de polémiques quant à l'exactitude des informations qu'ils avancent, mais aussi quant à la vision parfois jugée réductrice ou fantasmée qu'ils proposent de la réalité. Ces critiques, il vous arrive d'y répondre aussi par l'argument de la littérature, l'argument de la fiction.
Oui, mais je ne tiens pas ce propos très souvent, parce que dans mes livres, il y a pas mal de vérités. Bon, les personnages sont inventés, certes, mais les lieux sont réels, les faits scientifiques le sont aussi, même chose pour la religion. Donc moi, je ne dis pas que c'est de la fiction. Moi, je dis que ce que j'écris, c'est l'histoire de personnages inventés qui ont un dialogue. Et si vous n'aimez pas leurs propos, très bien, libre à vous. Je ne vous dis pas que c'est un livre d'histoire. Je vous dis que ce sont des personnages inventés qui donnent leur point de vue. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord lorsqu'ils parlent de religion ou de science. Mais c'est ça qui rend la fiction si intéressante.
En fin de compte, c'est peut-être ça votre projet littéraire, Dan Brown, c'est de faire dialoguer, y compris les lecteurs entre eux.
C'est précisément la raison pour laquelle j'écris. Je veux créer un dialogue. Alors les gens me disent, parfois, vos livres sont controversés. Très bien, pas de problème, ça me plaît. Lorsque le Da Vinci Code est sorti, un jour j'étais à Boston, c'était un an après la sortie, et un prêtre est venu me voir en pleine rue, m'a reconnu, et m'a dit, « Monsieur Brown, je n'ai pas du tout aimé votre livre. » Bon, après il a souri, il a dit, « Mais je dois quand même vous remercier pour ce livre. » Parce que moi, je tiens des cours sur la Bible à l'église, et c'est toujours un petit groupe qui vient me voir, 9 personnes, la semaine dernière, j'ai décidé de parler du Da Vinci Code. 200 personnes sont arrivées à l'église pour assister à mon cours parce que votre livre les avait soit inspirés, soit rendus furieux. Donc, merci d'avoir créé ce dialogue. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais merci d'avoir créé ce dialogue.
En tout cas, ce n'est pas la première fois, Dan Brown, que vous choisissez un pays européen pour vos romans. Qu'est-ce que ça représente pour l'Américain que vous êtes, l'Europe ?
Les Américains sont des Européens. Ce pays a été fondé par des Européens. Les origines de la pensée ici sont européennes. Aujourd'hui, on pourrait penser que nous venons d'une autre planète aujourd'hui, parce que les États-Unis sont, comment dire, chamboulés. Et nombreux sont les gens partout dans le monde qui espèrent que nous allons revenir à la raison, et je pense que ce sera le cas d'ailleurs. Mais moi, je parle d'histoire. Les États-Unis n'ont que 200 ans d'histoire. C'est comme ça, mais si on veut aller aux origines de la pensée occidentale, la spiritualité, la philosophie, la religion, la musique ou l'art, eh bien, il faut aller en Europe. Donc, à mes yeux, l'Europe, c'est un trésor d'histoire et de culture, et je suis éminemment respectueux de ce que j'apprends quand je suis en Europe, et j'y vais souvent.
Qu'est-ce qui a marqué votre mémoire la première fois que vous vous êtes rendu en Europe? L'architecture?
L'âge des choses, l'âge des bâtiments, l'architecture, l'art.
Évidemment, je vous pose les questions parce que dans Origine transparaît ce goût pour l'architecture. Quand vous pensez par exemple au musée Guggenheim de Bilbao, conçu par Frank Gehry et qui est comme l'une des matrices de votre livre, qu'est-ce qui vous a immédiatement inspiré et surtout quel genre de lieu est-ce que c'est pour vous? Un musée.
J'ai toujours adoré les musées parce que mon personnage est très connaisseur en art. Lorsque Robert Langdon entre dans un musée, il est chez lui. C'est le genre de personnage qui peut vous montrer n'importe quel tableau et vous expliquer le symbolisme, les origines, et ainsi de suite. Mais dans Origine, j'ai décidé de placer mon personnage dans un univers différent. Là, il ne sera pas chez lui parce que Robert Langdon ne connaît rien à l'art contemporain. Moi, j'ai beaucoup étudié l'art, mais pas beaucoup l'art moderne. Et je me suis lancé ce défi à moi-même. Je me suis dit que j'allais apprendre ce qu'est l'art moderne.
Vous savez bien sûr, Dan Brown, qu'à Paris, il y a des tours de la ville et des musées placés sous votre patronage. Des Da Vinci Tours, qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Mais c'est génial. Tout ce qui pousse les gens à lire, à aller au musée ou à faire des visites thématiques de villes avec un point de vue artistique, c'est génial.
Vous l'avez suivi, le Da Vinci Tour, secrètement en vous déguisant, Dan Brown?
Moi, non. Mais Ron Howard et Tom Hanks, oui. Ils ont mis des barbes postiches, que sais-je encore, et ils ont fait ce tour, oui.
Entre nous, vous êtes beaucoup plus Léonard de Vinci que Jeff Koons.
Eh bien, c'est mon expérience, ça. J'ai étudié l'art classique. Et à mes yeux, Dieu, l'écriture d'origine, c'était un défi. Mais je me suis bien amusé, hein, parce que, prenons ce chiot, cet immense chiot de Jeff Koons, fait en fleurs à l'extérieur du Guggenheim à Bilbao. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que je peux l'apprécier? Ou est-ce que c'est juste bizarre et bêtassou? Et en réalité, j'ai une appréciation énorme pour l'art moderne.
Qu'est-ce que c'est le beau pour vous, Dan Brown?
La beauté, c'est le rapport entre les gens. Et la beauté, je la vois lorsque je vois deux personnes en train d'interagir. Peut-être que ces gens sont amoureux, ou alors ils sont dans un désaccord avec passion, avec force et passion, mais il y a dans ce rapport quelque chose d'inégalable. Deux personnes, ou même un groupe de personnes, qui sont en train d'interagir et de partager des idées, pour moi, c'est ça la beauté.
On va continuer à essayer d'en apporter de la beauté et du sens à tout ce chaos. On écoute Wyclef Jean, tiens, et son impressionnant Apocalypse, qui samplait le concerto pour une voix de Saint-Preux il y a un peu plus de 20 ans sur son album Carnival. Vous êtes sur France Inter avec Dan Brown. Vous écoutez Boomerang lundi matin.
Soldier, 100 horsemen at your door. Apocalypse. 5-6, you want it dead or alive? Get a miss. We are. Arrival of the carnival. New beats I never recycle. While you looking for samples, you might get trampled. Surprise, hey, I'm back with lightning and thunder. I heard you over saying I'm a one-hit wonder. You dumb as summer, winter, refugees till infinity. When I'm done, collect royalties from record companies. Clouds getting darker, sun's getting nearer. I turn an atheist to a God-fearing believer. The back of a building, your body's found by children. Playing hide-go-seek, what we found was your skeleton. In the back of a car, you spar with the wrong cards. You know my empire strikes back hard, misses launch. War is the day after ashes. Project cannons being launched at the palace. Vision revelation, sky road apocalypse. Enemy pilots kamikaze into the abyss. Ah. 1-2, the headline news broke through. Ah. 3-4, soldier, 100 horsemen at your door. 5-6, wanted dead or alive, hit or miss.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Alors franchement, je jette l'éponge, là, il n'y a rien à dire, rien qui dépasse, rien à signaler, il est plus que parfait. Quelque part entre l'antiquaire de la rive gauche, le curé de campagne et le plus jeune membre honoraire du club de philatélie de Marne-la-Coquette, bien peigné, avec l'arrêt sur le côté sourire engageant, fossette au menton, petit regard plein de malice avec sa chemise rose et son jean admirablement repassé, le romancier Dan Brown, invité de Boomerang ce matin pour Origine, son dernier roman, un roman qui s'ouvre sur la description d'un lieu extraordinaire, l'abbaye de Montserrat. En Catalogne. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu?
Bien sûr, l'abbaye de Montserrat se trouve tout en haut d'une chaîne de montagnes. C'est un monastère dont on a l'impression qu'il est accroché à une falaise. Il y a un petit funiculaire terrifiant qui vous emmène jusqu'à l'abbaye. Et j'ai choisi cela pour y situer le roman parce que je présente la religion à la science et vice-versa. Il y a un scientifique athée, milliardaire, qui pense que la science est dangereuse pour le monde, et il prend ce funiculaire pour aller au cœur du christianisme, pour prévenir tous les croyants, pour leur dire « Hey, j'ai des informations et ça va oblitérer votre univers. »
Mais c'est ça, dans un monde aussi connecté que le nôtre aujourd'hui, un lieu comme celui-ci, qu'est-ce qu'il vous inspire précisément? Qu'est-ce qu'il nous dit?
C'était conçu pour isoler les occupants du reste du monde. C'est pour ça que l'abbaye a été créée. Si vous allez là, vous allez être déconnecté du monde.
Ça vous arrive à vous, Dan Brown, d'avoir envie de vous couper du monde, justement, de vous isoler?
Oui. Quand j'écris un roman, c'est ce que je fais, d'ailleurs. Je vais à des endroits où il n'y a pas d'Internet, où il n'y a pas de téléphone. Il faut. C'est nécessaire. Pour terminer un livre, c'est indispensable.
Et vous vous enfermez pendant combien de temps?
Books, for me, take... Moi, j'écris un roman en 3 ou 4 ans. Je me lève tous les matins à 4 heures du matin, tous les jours, même le jour de Noël. Et j'écris de 4 heures jusqu'à 11 heures, midi. Donc c'est une journée assez longue pour moi. Je ne fais rien de bien la première fois. Peut-être que c'est le cas pour certains écrivains, mais à chaque fois que j'écris 10 pages pour Origine, j'en vire 9. Voilà. Lorsque l'on achète un roman, on n'achète pas les mots que l'auteur met sur la page, on achète les mots qu'il n'a pas mis sur la page. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que le lecteur ait une expérience pleine, passionnante, et je veux que chaque mot qui frappe votre rétine ait du sens. Et s'il y a une information qui vous arrive à vous, eh bien c'est parce que vous en avez besoin.
Si vous voulez bien, j'aimerais bien lire un extrait d'Origine. On se trouve toujours dans cette abbaye de Montserrat, au tout début du livre. Il se retrouva dans une pièce rectangulaire. Les hauts murs étaient couverts de vieux livres, entre les rayonnages qui saillaient des parois comme autant de côtes fabuleuses, d'antiques radiateurs de fonte grognaient, vibraient. Il lui semblait être dans le ventre d'un monstre marin. En découvrant la balustrade ouvragée qui faisait le tour de la pièce au-dessus de lui, Kirsch comprit où il se trouvait. La bibliothèque. Cette bibliothèque, vous y êtes allé, Dan Brown. Qu'est-ce que vous avez ressenti entouré de tous ces livres ?
C'est un lieu éminemment sacré. C'est un honneur pour moi que d'y être. J'avais l'impression d'être en terre sacrée. Cette bibliothèque a une collection de livres particulièrement stimulante pour moi parce que c'est une collection vivante. Les moines arrivent et prennent des livres très anciens. Ils vont dans leur chambre et lisent. Ce n'est pas un musée, c'est une bibliothèque vivante. Et bien souvent, les livres, on les met à température ambiante, sans humidité, derrière une vitrine, et ainsi de suite. Alors que là, non, c'est une bibliothèque vivante. Et pour moi, c'était une révélation, un accès à une information incroyable. Et je respecte l'abbaye de Montserrat d'autant plus.
Ce qui est intéressant, c'est que ces livres-là, ils survivront sans doute au triomphe de la science et des nouvelles technologies, Dan Brown.
Ah bah oui, à n'en pas douter. Et moi, je prends le pari qu'ironiquement, ces ouvrages seront numérisés. On pourra les partager partout dans le monde.
Qu'est-ce que vous dites, justement, de ceux qui disent que les livres sont des objets anachroniques ?
Moi, je dis que le récit constitue la forme artistique la plus ancienne au monde, que la langue, c'est l'outil de notre progrès. Et le livre, oui, peut être anachronique un jour. Dans 100 ans, le livre physique papier n'existera peut-être plus. Mais moi, je trouve ça un peu triste. Mais en tout cas, moi, ça ne me pose pas un problème, la disparition des livres papier. Mais en tout cas, la langue écrite, elle, ne disparaîtra jamais.
Vous dites ça, Dan Brown, mais en même temps, dans votre bibliothèque, il n'y a que des livres. Il n'y a pas de liseuse.
Non, moi je préfère les livres papier. Mais tout ce qui promeut la lecture, c'est formidable. Les liseuses, ça me va très bien. Aucun problème. Mais moi j'aime les vrais livres. C'est comme ça que j'ai grandi.
C'est vrai qu'il y a un passage secret dans votre bibliothèque, Dan Brown ?
On est à la radio, mais je vais me lever, je m'éloigne du micro. Voilà, je suis près du mur, je pousse une étagère.
Wow.
Ça tourne, et là, il y a un passage secret.
Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?
Ah, je ne vais pas vous dire. Tenez, prenez ceci. Et dites à votre auditeur ce que vous avez à la main.
Mais je porte une lampe, en fait.
Oui, c'est la lampe d'Ange et Démon. Robert Langdon prend cette lampe au Vatican. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui était à Paris.
Donc là, c'est un codex.
Oui, c'est le codex, le cryptex du Da Vinci Code. C'est ce que Tom Hanks trouve dans ce lieu secret à Paris. Et du reste, ça a été fait par un joaillier français. C'est très lourd, Et lorsque l'on met le bon mot, Apple, la pomme, vous vous souvenez peut-être, donc ça s'éclate et à ce moment-là, il y a le parchemin qui tient l'énigme, vous vous souvenez, Tom Hanks, l'abbaye de Westminster, et lorsque ça éclate, le vinaigre dissout le texte et perce l'énigme.
Ce goût pour les secrets, il remonte à quand ?
Ça vient de mon père, je crois. Quand on était gamin, le jour de Noël, on arrivait près de l'arbre de Noël, mais il n'y avait pas de cadeau. Il n'y avait qu'une enveloppe dans l'enveloppe une énigme. Énigme qu'il fallait déchiffrer. Ça nous menait à un autre endroit dans la maison. Et là, on trouvait une autre enveloppe avec une autre énigme. Cette chasse au trésor nous amenait, au bout du compte, à notre cadeau de Noël. Et ça a vraiment laissé une marque sur moi. Les secrets, je me suis dit, c'est chouette parce que mon père faisait en sorte que ça soit amusant.
Mais est-ce que vous ne craignez pas, justement, qu'un jour, avec l'intelligence artificielle dont votre livre anticipe le règne, il n'y ait plus de secrets, justement, plus de zone d'ombre, une transparence complète sur tout?
Une question géniale. Et en fait, quand vous posez cette question, ça me donne un frisson. Mais c'est vrai. C'est tout à fait possible que les secrets vont disparaître. Et si l'on regarde la confidentialité de nos données personnelles que nous avons abandonnées au cours des 10 dernières années, c'est étonnant. Aujourd'hui, vos données personnelles, on peut les connaître dans les moindres détails. Et nous avons décidé que la confidentialité, ça ne nous intéresse plus. Mais qui a les clés? Voilà la question. Qui sera le gardien du temple? Les gens ont accès à vos données personnelles, mais qui s'occupe de ces gens-là qui ont accès à vos informations? Questions éthiques auxquelles nous sommes confrontés dans notre société.
Merci infiniment, Dan Brown, de nous avoir accueillis chez vous, de faire un tour dans Boomerang. Merci à votre interprète ce matin, le brownesque Xavier Combes. Je rappelle que la version poche de votre dernier roman, Origine, sera bientôt disponible au Livre de Poche, dans une traduction de Dominique Defer et Carole Delporte. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant que ce sera un succès. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers.